première, Père Marie-Dominique Philippe, le 8 octobre 1998 à Saint-Jean-d'Arc.
Entre l'aigle et la Vierge Marie, on est bien situé. Je reviens dans cette topique très rapide, cette topique historique, voir comment progressivement en philosophie grecque on découvre cette métaphysique. C'est-à-dire le dépassement du devenir. Et c'est l'intelligibilité du devenir qui permet de découvrir ce dépassement. Comprendre comment cette métaphysique et philosophie première dans l'ordre de noblesse, dans l'ordre de la sagesse, je ne peux pas aller au-delà. C'est le terme d'élos, la fin. Alors, en philosophie grecque, c'est posé le problème de la différence entre le devenir et l'être sur tous les plans, la différence entre le multiple et l'un. Alors, c'est intéressant de voir ce problème du devenir et de l'être dans ses diverses modalités au niveau de la vie, au niveau de l'esprit, au niveau de la vie, c'est la génération et le fruit de la génération. La génération part du non-être en puissance, de l'être en puissance, à découvrir le vivant. Au niveau de l'esprit, le point de vue de la raison et l'intelligence. Et c'est intéressant de voir comment Aristote a saisi ce problème fondamental des liens entre l'être et le devenir, et qui revient de manière très particulière dans des philosophes modernes comme Heidegger. Et c'est intéressant chez Heidegger parce que ça vient après Hegel. Il y a comme une constante dans toute la philosophie européenne depuis la Grèce jusqu'à Hegel, et après Hegel, jusqu'à nos jours, ce problème du devenir et de l'être. Au niveau de l'être, au niveau de la vie, au niveau de l'esprit. Et c'est Aristote qui, le premier, donne une solution. Découverte, c'est pas une solution, une découverte profonde des rapports entre les deux. À ce point de vue-là, c'est capital. Parce qu'on pourrait, si on avait le temps, faire toute l'histoire de la philosophie européenne dans cette lumière, en prenant toujours l'être, la vie, l'esprit. Esse vivere intelligere. Ces trois niveaux qui sont communs chez les néoplatoniciens et chez les aristotéliciens. Alors c'est intéressant de voir le point de contact entre la lutte, le combat philosophique, Platon, Aristote. Le combat philosophique, Platon, Aristote est toujours actuel. Parce que il est le passage de l'expérience à la philosophie première, à l'éveil du nous, à l'éveil de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on ne perd jamais son temps à creuser Platon et à voir comment Aristote répond. Ça, c'est capital. C'est capital parce que génétiquement, pour nous, notre culture européenne au plan philosophique a commencé là. C'est le génie grec, ça. C'est qu'ils ont saisi le problème fondamental. Et vous retrouvez ça, alors, analogiquement, très analogiquement, chez Saint Jean, le devenir, l'apocalypse, l'être, l'évangile. C'est très extraordinaire de voir ça, voyez, au niveau surnaturel. Il n'y a pas seulement essai, vivere, elle est durée. Il y a la foi, l'être surnaturel. Dans l'être surnaturel, l'être de la foi, vous avez la perspective de l'apocalypse, la perspective de la contemplation, les luttes, la contemplation, la vie apostolique, la contemplation. Et ça, il faut le voir. Intérieurement, intellectuellement, pour rester fidèle. Parce que l'aspect de la lutte, l'aspect du devenir, risque toujours de l'emporter. La psychologie demeure dans le combat, demeure dans la lutte, demeure dans le devenir, demeure dans le conditionnement. Seule une philosophie première fait découvrir ce qu'il est en tant qu'il est. La contemplation se finalise par elle-même et en elle-même. Je ne contemple pas pour ma vie apostolique, je contemple pour glorifier Dieu. Et ma contemplation s'achève en Dieu. Elle n'a pas d'autre finalité. Se servir de notre contemplation pour la vie apostolique, c'est pas bien. C'est nécessairement tôt ou tard faire que la vie apostolique prenne le primat. Et on mesure tout en fonction de la vie apostolique. Regarde ce qu'un prieuré peut assurer comme vie apostolique. Ce n'est pas juste. Il faut regarder ce qu'un prieuré réalise dans sa finalité, la contemplation. Est-ce que c'est un phare au milieu des ténèbres? Un phare qui tourne avec sa projection de sa lumière. Chacun de nos priorés soit ça. Dans le monde d'aujourd'hui, qui sait plus ce que c'est que la contemplation. Qu'il y ait constamment ça. Et nos sœurs contemplatives, nos sœurs mariales doivent rappeler constamment ce primat de la contemplation. Nos sœurs apostoliques également, ce primat. prima la contemplation. Et nous-mêmes, de prima la contemplation. Oui, c'est très curieux. Et ça, il faut essayer de le comprendre philosophiquement et le comprendre mystiquement. Et une fois qu'on l'a compris, on y revient tout le temps. Et ça doit être notre lucidité, cela. On doit être très lucide là-dessus. Et le noviciat, c'est vivre cette recherche de l'être, cette recherche de la contemplation et du prima de l'être et de la contemplation. Et découvrir que ce prima donne son intelligibilité à toute notre vie apostolique, mais que notre vie contemplative a sa propre fin en elle-même. Ce n'est pas le devenir qui éclaire l'être, c'est l'être qui éclaire le devenir. Et que si on est un tout petit peu lucide, on s'aperçoit que toute la diversité des philosophies depuis la Grèce jusqu'à nos jours, c'est toujours ce problème de venir être tout le temps. Là, il y a trois positions philosophiques. Aristote est face à Platon. Platon a cette noblesse. Il a des oncles qui ont été empereurs. Ça fait qu'au point de vue humain, ça lui donne une certaine dignité. Il rêve toute sa vie d'être roi. Alors, ne rêvez pas toute votre vie d'être pape. Mais regardez le roi, le pape. Toute sa vie, Platon rêve d'être roi. Alors ça fausse tout. L'intention de sa vie, elle est nette. Sa philosophie est une philosophie toute orientée vers la contemplation. Alors il devrait toute sa vie rêver à être ermite. Un Platon ermite. Je crois que la petite cabane qu'il a arbitré Platon saute très très vite. Il veut être sur la place publique, roi. Mais c'est très curieux, hein, cette espèce de dualisme en Platon. Il est saisi par la noblesse de l'être. Il projette sur l'être qu'il est sa noblesse. La noblesse de l'être, c'est l'être en soi. Et qu'est-ce que c'est que le roi? C'est l'homme politique en soi. Regardez-moi, je suis. Ce qu'il y a de plus digne, de plus grand dans la politique. L'homme politique en soi. C'est cette espèce de réflexion sur la saisie de l'être, la découverte d'un certain absolu, la découverte du beau, du bien, de la vérité, de la lumière en soi. Toute la théorie de Platon, c'est de montrer ce dépassement à l'égard d'une panne pareille. Héraclite. Panne pareille, tout coule, tout coule, tout passe, tout change. Ça, Platon, oh, noblesse, tu as de la grandeur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais quitter Platon. Mais il ne faut pas non plus se jeter dans Platon et ne plus en sortir. Parce qu'alors, on n'en sort plus. Mais c'est l'un et le bien. Voilà les deux grandes colonnes. Et au point de vue personnel, au point de vue philosophique, c'est la théoria. La théoria, la contemplation. La contemplation de l'un, la contemplation du bien. Et pour voir comment on y accède, c'est par les idées. Les idées qui nous font saisir les choses en soi. Et ces idées sont infuses en nous. On est philosophe. Et c'est ce que les stoïciens ont gardé de Platon. Quand ils voient quelqu'un d'intelligent, disent « natis », le philosophe, il est né pour être le roi de la pensée, de l'intelligence, pour être cause exemplaire. « Natis sunt ut exemplar », cette expression de Sénèque qui est très forte vis-à-vis du philosophe, il est né pour être cause exemplaire. Platon, il est né pour être cause exemplaire. Et le maître de Platon, Socrate. Mais Socrate reste dans l'humilité, dans la pauvreté. Platon, son fils bien-aimé, est roi. Il est roi de la pensée. Il est né pour être cause exemplaire. C'est la causalité exemplaire. Alors, c'est d'une certaine manière l'artiste métaphysique, métaphysicien. Sa métaphysique, c'est un art de la pensée. C'est cette espèce de repliement très noble. L'intelligence qui se suffit à elle-même parce qu'elle atteint tout dans une profondeur unique par les idées. Alors, dans Platon, il y a cette croissance à partir de tous les premiers dialogues. Puis, à un moment donné, le Parménide, jeune Aristote, critique cette statue magnifique, cet édifice étonnant de la République. La République est un livre génial, mais faux. C'est une œuvre intellectuelle extraordinaire. Et ça reste toujours... C'est le premier, la première philosophie politique. Et cette philosophie politique, la cité du grand roi. Et le grand roi, c'est Platon. La cité du grand roi, c'est la République. Il faut avoir lu une fois dans sa vie la République de Platon. C'est indispensable. Ne lisez pas en première année. Parce que vous serez tenté, séduit, et vous tiendrez le roi de la grande cité. Alors le pauvre Permette disparaîtra. Le roi de la grande cité. Mais la cité de Dieu, hein, de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin aime Platon. Platon l'a sauvé. Platon a été son Jean-Baptiste. Ça l'a sauvé d'une attitude de repliement sur la cause matérielle. Alors je comprends. Et la cité de Dieu. Dieu, c'est le baptême de la République, de la Res Publica, donc au sens étymologique, au sens noble, la République, c'est le bien commun de tous les citoyens, c'est le bonheur de tous les citoyens. Et quand la République se corrompt, c'est le désastre de tous les citoyens. Et il y a quelque chose de très grand dans la République, mais de terrible. C'est terrible. Je comprends que Saint-Augustin, qui se convertit par Platon, quand il y a République, ah, ça réclame la cité de Dieu. Et la cité de Dieu, c'est la République de Saint-Augustin. Alors, on a l'autocritique de Platon. À un moment donné, ce magnifique édifice que Platon réalise, puisque pour lui, la morale vient de la cité du philosophe. La cité du philosophe, c'est la politique. C'est l'homme politique. Il joue le rôle de cause exemplaire à l'égard de la personne, à l'égard du bonheur de la personne. Il y a là quelque chose qu'on retrouve dans le socialisme, c'est que la personne est identifiée à l'individu et c'est la partie du tout. On est relatif au tout. Et le tout, c'est la cité. Le tout, c'est la res publica. Donc l'homme est relatif au plan politique. Cet édifice magnifique repose sur l'intuition divine. On naît avec des formes idéales. Et tout repose là-dessus. Si on montre que ces formes idéales ne sont pas vraies, tout s'effondre. Et la statue de Nabucodonosor au pied d'argile, c'est exactement ça. C'est que, de fait, tout l'édifice de Platon, si noble et si grand, repose sur une imagination. J'imagine. On peut dire ça, nous, dans la lumière de la révélation parfaite, de la révélation qui nous vient de Jésus. On imagine qu'on est fils de Dieu, et donc que si on est parfaitement fils de Dieu, les rois de l'univers. Et tout s'achève dans le philosophe. Le Parménide, c'est la critique. Alors ça, c'est très intéressant de voir comment Platon se critique lui-même. Par le jeune Aristote. Que le jeune Aristote soit Aristote ou pas Aristote, ça m'est égal, hein. C'est le jeune Aristote, c'est le symbole de quelqu'un de très proche de Platon, qui voit plus clair que lui. Tout ton édifice, c'est magnifique, il repose sur quoi? Sur quelque chose qui n'est pas vrai. Mais, puisque vous voyez l'inspiration artistique, connaissance de l'être, l'inspiration artistique et l'inspiration divine. Platon fait de son inspiration une inspiration divine. Mais il serait intéressant de comparer Moïse et Platon à ce point de vue-là. Parce que Moïse est inspiré de Dieu. Et il a une vision du peuple de Dieu, de la res publica, qui est divine, de la cité de Dieu. Et un israélite, professeur d'économie, vient d'écrire un livre sur l'économie sabbatique. Qui est l'économie dictée par Dieu à Moïse. Où il y a le Shabbat, qui va jusqu'à la terre. La terre a besoin du Shabbat pour empêcher l'exploitation. On coopère avec la terre, on ne l'exploite pas. Exploiter la terre comme on fait maintenant, pour gagner le plus d'argent possible, c'est nécessairement, après moi, le déluge. Parce que ce n'est plus cultivable. Alors on doit tout remplacer par la chimie. C'est intéressant de voir cette réflexion du peuple d'Israël qui est source d'une certaine manière, qui a reçu de Dieu une révélation vis-à-vis du peuple de Dieu, vis-à-vis du Shabbat. Le repos de Dieu. C'est vrai, le Shabbat, c'est le repos de Dieu. Alors, dans la foi, ce n'est pas de l'ontologisme. Mais dès qu'on quitte la foi, c'est de l'ontologisme. Et on construit le temple de Dieu, la cité divine. Vous voyez, ce qui est intéressant dans Platon, c'est de découvrir la nostalgie la plus profonde de l'intelligence humaine. Je crois qu'on pourrait faire ça, vous voyez. La philosophie de Platon, la nostalgie la plus profonde de l'intelligence humaine, d'une intelligence artistique qui se veut philosophique. Lucerne, intelligence mathématique qui se veut philosophique, la phénoménologie d'esprit. Et on trouve tout le temps ça. Alors c'est intéressant de dégager cette nostalgie de l'esprit qui se veut dominer tout et qui domine tout par les idées, l'inspiration divine. Moïse aussi est inspiré de Dieu, mais il le sait. Il ne dit pas que c'est lui, il dit que c'est Dieu. Dieu lui a parlé. Et quand Dieu lui a parlé, il a dit, je suis celui qui est. Dieu n'a pas dit, je suis le roi de la terre. Non, je suis. C'est impressionnant. Si on avait été nous à la place de Dieu, on aurait dit, je suis le roi de la terre. Je suis celui qui est le Tout-Puissant. Non, il ne dit pas ça, je suis. Donc, si on est intelligent, Dieu nous indique la route. Vous ne pouvez rejoindre le nom de Dieu que par le « Je suis ». Autrement, vous ne le rejoindrez jamais. Vous rejoindrez les tyrans. Vous rejoindrez les potentats. Vous rejoindrez l'orgueil humain. Vous ne rejoindrez pas celui qui est. C'est impressionnant de voir ça dans l'histoire humaine. C'est pour ça que la République de Platon est si intéressante. Je crois que connaître la République de Platon, si on fait de la philosophie politique, c'est capital. Et voir l'erreur, et voir la tentation, vous serez comme des dieux. Et immédiatement après la politique, le Parménide, la critique, la petite fronde, tout cet édifice magnifique repose sur les idées, sur la théoria des idées, la conscience. il n'existe pas. C'est donc l'imaginaire. Il est un magnifique artiste de la métaphysique. Un artiste de la pensée. Un architecte de la pensée architectonique. Mais c'est architectonique. C'est in principio au point de départ. Il y a la technique. Pas le verbe. Mais au point de départ, il y a la technique, il y a le faturé, dominé. C'est en plein ce que nous sommes aujourd'hui. C'est intéressant de le voir avec le recul. Les 2000 ans de recul, un peu plus même que 2000 ans. Important pour comprendre la grande statue de la liberté construite par les hommes. Cette statue extraordinaire, bâtie par Platon lui-même. Et le rêve des hommes, c'est ça. Le rêve de la vie religieuse en soi. Soyons tous des saints fabriqués par nous, et non pas des saints enfants du paraclet, mais des saints qui se construisent. Et juste après la République parménide, Aristote, oui, la providence est bonne. La providence a permis que parmi les disciples de Platon, il y a un génie. Il est entré par la petite porte, ce génie. Il s'est tué. Le liseur. C'est comme ça qu'on l'appelait. Hein? C'est très anti-Platon, hein, le liseur. On oublie ça. Platon n'est pas du tout le liseur. C'est le contemplatif. Il a en lui tous les livres, puisqu'il a en lui toutes les idées. Il n'y a pas besoin de lire. Platon, c'est l'autodidacte parfait dans son inspiration. Tout vient de lui. Tout vient de ses idées. Il les pousse jusqu'au bout. Et cet homme extraordinaire, génial, ce super hégélien, merveilleux. Par la petite porte entre Aristote. Tout jeune. Aristote le regarde. C'est un géant. Aristote avec son bon sens. Découvre très vite. Il n'a jamais accepté les idées. Si on avait un texte d'Aristote qui accepte les idées, on le mettrait en pleine lumière. Non. Il a compris que l'expérience et non pas l'inspiration était la source de tout cheminement vers la vérité. Ça, c'est un coup de génie face à Platon. Il devait admirer Platon. Parce qu'il est admirable. Il devait l'admirer, mais il devait le fuir. C'est un séducteur. C'est bon d'avoir été un peu séduit par Platon. Pas trop longtemps. Pas trop. Mais c'est bon. Aristote a compris que la source de Platon n'était pas juste. Et qu'il fallait prendre une voyez, la tentation de tout penser à partir de rien, ex nihilo, pour être le penseur qui redécouvre tout lui-même. Sartre, dans l'être et le néant, reprend la formule ex nihilo. Tout est à partir de rien. Tout est de rien. La néantisation. Il y a une parenté. Pourquoi dit-il ça? Parce que tout vient de lui. Si je n'ai pas de maître, tout vient de moi. J'ai tout découvert. Je suis génial. J'ai tout découvert. Vous voyez, il y a un premier moment d'Aristote face à Platon qui est capital à penser. Qui est capital. On ne sait presque rien de la vie d'Aristote pendant les 20 ans qu'il est couvé. Pas une couveuse électrique, mais couvé par Platon. C'est peut-être quelque chose, hein. On n'avait pas froid quand on était couvé par Platon. Et on s'apercevait que si on ne revenait pas toujours humblement à l'expérience, on s'endormirait. Platon fait dormir dans un rêve extraordinaire. Mais quand on se réveille, c'est le désespoir. Ce monde n'existe pas. Mais la tentation de certains, on voit. C'est très bien, j'ai encore entendu ça l'autre jour. C'est très bien ces études philosophiques. Mais quand on voit ce que c'est que la vie apostolique, tout ça est très loin. On a envie de leur dire quoi? Est-ce que c'est la vérité que vous cherchez? Et quel est votre rôle? Être celui qui suit le monde ou celui qui suit le Christ? Est-ce que votre rôle, c'est la découverte de la vérité dans un monde qui ne suit plus la vérité, qui ne la comprend plus? Mais c'est dit dans Saint Jean, c'est Jésus qui le dit, le paraclet, que le monde ne connaît pas. Que le monde ne connaît pas parce qu'il ne le voit pas, j'ai dit textuellement. Mais vous, vous pouvez le recevoir parce que vous savez qu'il vous est donné. C'est très très fort ça. Et ça doit tout le temps venir à ça, au point de vue chrétien, mais même au point de vue humain. Le monde charrie les opinions. Et ce qui est très curieux, c'est que les opinions, ça se propage beaucoup plus vite que la vérité. Réfléchissez là-dessus. Pourquoi les opinions se propagent beaucoup plus vite que la vérité? Est-ce que c'est pas la situation propre de l'homme? Le devenir, je peux le toucher. L'être. Il faut du temps pour le découvrir. Il faut du temps pour le découvrir. Ce n'est pas en entrant à Saint-Jean que vous découvrez l'être. Non. Vous avez le désir de le découvrir. C'est la seule chose qu'on réclame. Le désir de chercher la vérité. Mais toute votre vie, vous cherchez la vérité. Le jour où vous dites « je possède la vérité », ça prouve que vous possédez vos idées, et non pas la vérité. La vérité, on ne la possède pas. On la cherche tout le temps. On la contemple. Elle est avant moi. Elle est après moi. Elle est éternelle. Je peux dire ça en philosophe. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je voyant, je le dis avec une profondeur nouvelle, avec un réalisme, une certitude nouvelle, que je ne peux pas mettre en doute. En philosophe, je peux le dire, parce que la philosophie conduit à la sagesse. Aristote découvre que la philosophie première est au-delà des mathématiques, et que les mathématiques ne peuvent rien dire de la philosophie première. Les idées en soi, ce n'est pas l'être. Pour Platon, le chemin d'existence, c'est la découverte de l'idée en soi. C'est la planter de l'idée en soi. C'est ça qui importe. L'exister, ça importe peu, puisque je regarde la réalité en soi. Or, la réalité en soi n'existe pas directement. Je l'atteins par mon intuition. Donc, soyons très attentifs à ce combat qu'Aristote a subi pendant 20 ans. Magnifique. Hein. Pour notre foi chrétienne, il a fallu 2000 ans de combat auprès de Moïse. Mettez le parallèle, hein. C'est intéressant de voir ça. 20 ans de compagnie avec Platon, dans la clinique de Platon, où on pouvait construire ce magnifique. Aristote n'a jamais adhéré à ça, ni s'est tu. Avec le respect qu'il avait pour Platon, il s'est tu. Et dès que Platon est mort, tout de suite, il a fondé son école. Il n'a pas été le successeur de Platon. Non. Il a fondé l'école des péripatéticiens. Ceux qui acceptent de cheminer et de dialoguer. Il n'y a pas de dialogue pour Platon. Il n'y a pas moyen de... Il faut écouter ce que le maître dit et sa contemplation. Il n'y a pas de dialogue possible. On entre dans la cité. Platon. Aristote reprend tout à partir de l'expérience. Et l'expérience, c'est un jugement d'existence qui me met en présence du pantareil. Tout ce que j'expérimente change, bouge, mais cela, ça a l'air de rien, mais de voir que l'intelligence humaine se développe. Je deviens intelligent. Si je cherche la sagesse, je deviens intelligent. Si je cherche la vérité, et mon intelligence progressivement s'éveille. Et j'assiste à cet éveil de l'intelligence. C'est plus beau que d'assister au lever du soleil. Mais assister au lever du soleil, c'est un symbole merveilleux de cet éveil de l'intelligence. Subitement, tu dis c'est vrai. Tout ce que j'expérimente existe. Et ce n'est pas le devenir qui m'explique comment ce qui se meut, ce qui est mu, existe. C'est autre chose. Le devenir n'explique pas l'être. Mais le devenir est plus proche de moi. Et donc je reviens toujours à ce moment d'éveil du soleil, de l'intelligence, de la lumière, à partir des ténèbres du devenir, des ténèbres de la dialectique, des ténèbres des sciences qui demeurent dans le devenir. Il ne faut pas oublier l'alliance secrète qui existe en tout le domaine des sciences modernes, de l'épistémé moderne et des mathématiques. C'est très significatif. Et au contraire, la distinction, on peut même dire la séparation du domaine mathématique et du domaine philosophique. C'est une manière très simple, au plan critique, de voir la différence entre Platon et Aristote. Les mathématiques existaient, même si elles ont beaucoup évolué, mais elles existaient comme mathématiques. Pour Platon, les mathématiques, c'est le métaxu de l'expérience à la théoria. Pour Aristote, les mathématiques, c'est une mise entre parenthèses de la connaissance humaine qui se construit par elle-même. L'être mathématique n'est pas l'être réel, physique, du devenir. L'être mathématique est un être que mon intelligence liée à mon imagination, une imagination déjà très raffinée, le possible à fabriquer. Et les mathématiques deviennent le tremplin, le passage de l'expérience à la philosophie. Pour Husserl, c'est typique. Husserl passe une thèse de mathématiques et veut être philosophe ensuite. Et tous les philosophes le suivent. Si je le suis, je suis néo-platonicien. Si j'ai compris avec Aristote que les mathématiques ne sont pas à partir de l'expérience directe de la réalité, à partir du devenir. Et dans le devenir, si je veux rester réaliste, je vois que les mathématiques, c'est, comprenez bien, voie sans issue au niveau sagesse. Si je cherche la sagesse, les mathématiques, voie sans issue, une voie merveilleuse, une extraordinaire noblesse, c'est vrai, de causalité exemplaire, de c'est une voie sans issue par rapport à la sagesse. Puisque la sagesse consiste à découvrir l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. De découvrir le Créateur par cette voie sans issue. Je reste dans des formes en soi. Les mathématiques, c'est l'être en soi pour le mathématicien. C'est extrêmement curieux et intéressant de découvrir ce que c'est que l'être mathématique. Parce que découvrir l'être mathématique, c'est découvrir un être possible. Qui n'existe pas dans la réalité, en dehors de mon intelligence liée à l'imaginaire. C'est un être possible que j'actue, que je fais exister dans mon intelligence. Et donc, l'exister de l'être mathématique vient de l'intelligibilité que j'ai du possible. Et je l'actue. Je donne à cet être possible son exister. Et cet exister vient de mon intelligence mathématique. Et c'est pour ça que je suis tellement séduit par les mathématiques. Parce que c'est mon être. Je le possède. Quand je découvre l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, j'adore. Je reconnais que cet être est avant moi et que je suis totalement dépendant de lui. Il y a une réaction humaine totalement différente entre la découverte de l'être mathématique et la découverte de l'être premier. L'être mathématique, il est premier dans mon intelligence liée à l'imaginaire, à tous les possibles. Alors, il faut bien voir que ce duel si important entre Platon et Aristote est un moment. Platon va continuer avec le néoplatonisme jusqu'à Hegel. Il y a une continuité. Et c'est intéressant de voir cette continuité. Aristote, il n'a pas de successeur. Comme ça, Jean, il n'a pas de successeur. C'est très, très curieux. Il y a bien des disciples Théophraste, mais il n'est pas arrivé à la dimension d'Aristote. Et c'est pour ça que les œuvres d'Aristote ont été perdues. Parce qu'il n'y avait pas de disciples. Pour Platon, les œuvres n'ont pas été perdues. C'est curieux, ça aussi, comme histoire. Et à partir de ces œuvres perdues qu'on a redécouvertes, un bibliothécaire appelé métaphysique, ce qu'Aristote appelait philosophie première, c'est un bibliothécaire qui a donné, qui a baptisé la philosophie première d'Aristote, métaphysique. Tout simplement, parce que pour atteindre le livre, au-delà de la physique, il fallait faire un pas nouveau. Il fallait aller plus loin que les œuvres physiques. Donc après les œuvres physiques, il y a encore la métaphysique. On l'ignorait. On avait cru qu'Aristote était uniquement le physicien, un grand physicien. qui n'est plus à partir de l'expérience immédiate de l'intelligence liée au sens, mais qui est une intelligence séparée, qui atteint le Doon Eon, ce qui est en tant qu'il est. Alors, on reviendra un instant sur cette découverte si grande. Le premier